Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons cet après-midi notre parcours de Pâques à la Pentecôte. La semaine dernière, nous avons vu que l'évangile complet comprend nécessairement la résurrection de Jésus. Et nous avons vu que le message de la grâce de Dieu peut changer toute notre orientation de vie. Nous sommes dans notre calendrier, et comme ça a été aussi rappelé, entre Pâques et l'Ascension. Et à notre époque, nos contemporains et nous-mêmes considérons plus souvent cette période comme un intervalle entre deux jours fériés. Mais pour celles et ceux d'entre nous qui sont chrétiens, c'est l'occasion de nous rappeler que Pâques, l'Ascension et la Pentecôte sont avant tout des événements historiques en lien avec notre foi, en lien avec notre salut, en lien aussi avec notre mission. J'entends par mission l'ordre du Seigneur, l'ordre que nous avons reçu du Seigneur de partager l'Évangile et de faire des disciples parmi les gens de toutes les nations. Et dans le texte de cet après-midi, Luc nous raconte ce qui se passe avant tout, ce qui se passe avant que Jésus retourne auprès de son Père, avant qu'il ne soit enlevé au ciel. Il le raconte d'ailleurs à un certain Théophile, qui est le même destinataire que l'évangile de Luc. Donc c'est le même auteur qui s'adresse au même destinataire. Et donc nous commençons finalement cette étude du deuxième volet de l'œuvre de Luc. Et peut-être que pour certains, le texte que nous venons de lire est bien connu. Et dans bien des messages, les prédicateurs aiment insister sur le verset 8 pour parler de la mission des chrétiens. Cette semaine, j'ai aussi lu un article qui reprenait le verset 8 pour le transposer à notre situation, comme si, par exemple, la Samarie représentait symboliquement les gens que nous n'avons pas naturellement envie d'évangéliser, puisqu'à l'époque, juifs et samaritains ne s'entendaient pas très bien. Je me souviens aussi d'une prédication qui m'a marqué et même encouragé à la mission d'annoncer l'Évangile en considérant qu'il fallait commencer par Jérusalem, c'est-à-dire là où l'on vivait. Après avoir étudié le texte et lu des commentaires, j'ai décidé de suivre une autre ligne d'interprétation. Et je prends volontairement le parti de présenter les choses autrement, en insistant sur le fait que ce texte ne parle pas premièrement de notre mission, mais plutôt de ce qui en est l'origine. Le livre des Actes est comparable à un livre d'histoire, et Luc prend le soin de raconter en particulier, donc à Théophile, différents événements qui font sens pour nous exposer l'histoire de l'Église, pour nous exposer les débuts du christianisme et également la progression de l'évangile de région en région. En tant qu'historien, Luc raconte les événements de manière suivie. Il le dit d'ailleurs au début de son évangile, qui est donc cette première partie de son œuvre. Donc cet après-midi, j'aimerais vous sensibiliser davantage à l'aspect historique de l'œuvre de Luc. Notamment parce que chaque événement a une place spécifique dans le plan de Dieu. Et la foi chrétienne a une histoire. Elle repose sur des faits historiques. Et c'est aussi le cas de la mission. Notre mission s'inscrit dans une histoire conduite par le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre mission s'inscrit dans le plan de Dieu qui vise le salut des êtres humains issus de toutes les nations. Et le message central que je vais développer à partir de ce texte est que le Seigneur nous montre qu'il a tout mis en œuvre pour que son royaume s'étende jusqu'au bout de la terre. D'après ce texte, le Seigneur nous montre qu'il a tout mis en œuvre pour que son royaume s'étende jusqu'au bout de la terre. Et pour avoir une juste appréciation de ce qui a été mis en œuvre, je vous propose de prendre en compte trois éléments qui font partie de ce plan missionnaire. D'abord, ce qui concerne le royaume de Dieu. Ensuite, ce qui concerne le Saint-Esprit. Et enfin, ce qui concerne les témoins de Jésus-Christ. Commençons donc par aborder ce qui concerne le royaume de Dieu. Dans les premiers versets du livre des Actes, Luc résume en quelques mots ce qu'il a raconté à propos de Jésus dans le premier volume de son œuvre, c'est-à-dire ce que nous appelons l'Évangile de Luc. Je relis avec vous le verset 1. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Dans l'Évangile, Luc s'intéresse au ministère terrestre de Jésus jusqu'à son ascension. Ça, c'était l'Évangile. Pourtant, dans ce premier chapitre des Actes, il semble revenir un peu en arrière pour raconter de nouveau le moment qui précède le départ de Jésus. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi revient-il en arrière? Beaucoup de commentateurs s'accordent pour dire que le verbe « commencer » que vous avez au verset 1 suggère que le livre des Actes rapporte ce que Jésus va continuer à faire et à enseigner par son esprit à travers ses apôtres. Donc, dans l'Évangile, il a commencé quelque chose et dans les Actes, il continue, mais autrement. Et ce qui est certain, c'est que Luc se concentre dans ce prologue sur les actes et les paroles de Jésus après sa résurrection. Si nous lisons le verset 3, « Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. » Luc précise que Jésus, ressuscité, est resté avec ses disciples durant une période de 40 jours. Sans doute pas tout le temps, mais chaque apparition de Jésus ressuscité était une preuve de plus qu'il était bien vivant. Et nous l'avons d'ailleurs vu aussi la semaine dernière. Jésus ne s'est pas contenté de passer de bons moments avec ses disciples, il a continué à les enseigner. Et à quel sujet? Au sujet du royaume de Dieu. Voilà une expression qui est méconnue pour nos contemporains, en particulier pour ceux qui n'ont pas reçu d'éducation chrétienne. Mais c'est une expression aussi qui peut être méconnue parmi les croyants eux-mêmes. Et peut-être que peu de chrétiens sauraient définir précisément ce que nous entendons ici par « royaume de Dieu ». Pourtant, c'est au sujet du royaume de Dieu que Jésus enseigne durant ses derniers jours sur la terre. Et cela montre toute l'importance de ce thème. Souvent, nous associons à l'expression « royaume de Dieu » celle de « règne de Dieu ». Là où Dieu règne, là se trouve son royaume. Là où Dieu règne, là se trouve son royaume. Et cette réalité ne concerne pas un territoire terrestre en particulier, mais elle concerne tout d'abord un roi et les personnes sur qui il règne. Et c'est là qu'il faut retourner à l'Ancien Testament. Bien sûr, Dieu règne sur sa création depuis le commencement et il continue de régner en maître absolu. Et dans l'histoire du peuple d'Israël, l'Éternel règne en particulier sur ce peuple avec qui il a fait une alliance. Et plus tard, dans l'histoire de ce peuple, Dieu choisit un roi, notamment le roi David, pour le représenter dans ce royaume terrestre. Mais en ce qui concerne le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus proclame le message suivant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et il faut rappeler qu'à cette époque, Israël est dominé par les Romains. Il n'y a plus de roi, plus de descendants de David sur le trône d'Israël, du moins en apparence. Pourtant, Jésus annonce durant son ministère que le royaume de Dieu est proche. Comprenez en quelque sorte que le royaume de Dieu est proche de vous, s'est approché des hommes. Et par cette annonce, Jésus indique qu'il représente lui-même le royaume de Dieu. et que le roi est là en personne. D'ailleurs, dans son entretien plus tard avec Pilate, le gouverneur romain, Jésus ne nie pas qu'il est roi. Il parle d'ailleurs d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Et je vous renvoie notamment à l'évangile de Jean au chapitre 18. Pour résumer tout ça, le royaume de Dieu comprend celles et ceux sur qui Dieu exerce une autorité reconnue. Dieu règne sur ceux qui le reconnaissent comme roi. Font partie du royaume de Dieu celles et ceux qui reconnaissent Jésus comme roi. Et il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais vous avez déjà ici quelques éléments. Et dans notre passage, Jésus prépare les apôtres à partager ce message du royaume de Dieu qui n'a pas changé depuis le début de son ministère. Mais malgré un enseignement régulier sur le royaume de Dieu, malgré cet enseignement régulier, eh bien, les apôtres ne semblent pas avoir encore tout saisi. Et c'est ce que nous voyons notamment au verset 6. Il pose cette question par rapport au royaume de Dieu, et cette question révèle qu'il reste attaché à un royaume physique, à un royaume qui concerne Israël, conformément aux attentes de l'époque. Quand Dieu établira son règne, ce sera la fin des ennemis d'Israël, et notamment, à l'époque, les Romains. Quand le Messie établira son règne, ce sera le rétablissement du royaume de David, ce royaume qui était présenté dans le Nouveau Testament comme étant ce royaume où Dieu règne en la personne du roi. Mais Jésus leur montre qu'ils se trompent de perspective. Il y aura bien un temps de restauration, mais qui n'est pas pour tout de suite. Pour l'heure, les apôtres doivent s'attendre à autre chose. Ils doivent s'attendre à participer eux-mêmes à l'extension du royaume de Dieu, qui dépasse le seul cadre d'Israël. Et voyez, ce malentendu entre les disciples de Jésus et Jésus lui-même nous indique toute l'importance de bien comprendre ce que nous entendons par royaume de Dieu. L'importance d'avoir une vision claire de ce qu'est le royaume de Dieu. Oui, nous annonçons au monde aujourd'hui que Jésus est roi. Et le principal défi est de pouvoir le partager notamment à nos contemporains qui n'ont pas la foi. Comment évoquer cette réalité du royaume de Dieu qui est si importante aux yeux de Jésus? Comment la communiquer à ceux qui n'en ont aucune idée? Eh bien, j'ai entendu parler d'une manière possible de parler du royaume de Dieu avec notre entourage non-croyant. Et cette méthode s'appelle les deux façons de vivre. Et j'aimerais juste vous la présenter brièvement et vous allez avoir quelques dessins. Le premier dessin, donc c'est sous forme de schéma, le premier dessin nous indique que Dieu est le créateur et qu'il dirige le monde avec amour. Il est celui qui règne sur l'univers et c'est ce qui est symbolisé par la couronne. Et l'homme qui est en dessous gère le monde sous son autorité. Donc il est sous la couronne. Deuxième image nous indique que malheureusement nous avons tous rejeté l'autorité de Dieu en vivant par nous-mêmes, en voulant vivre pour nous-mêmes. Et d'un certain côté, nous ne maîtrisons plus rien, ni dans notre vie, ni dans ce monde. Et puis la troisième image nous indique que la mort est le juste châtiment de Dieu pour un tel rejet de l'humanité, puisque l'humanité a rejeté celui qui est roi. Eh bien, le châtiment ultime, c'est qu'il doit être séparé à jamais de Dieu. Quatrièmement, dans son amour, Dieu a envoyé son Fils. Dans son amour, Dieu a envoyé son Fils Jésus. Il s'est soumis lui-même à l'autorité de Dieu. Jésus est mort à notre place pour que nous obtenions le pardon de nos fautes. Cinquième image, Puisque la dette de nos fautes est payée par Jésus, Dieu l'a ressuscité. Jésus est roi et reviendra pour juger le monde. Et durant cette vie, nous sommes donc face à deux choix. Et c'est là l'objet de la dernière image. Rejeter Dieu, c'est le premier choix, rejeter Dieu en tant que roi et vivre sans Dieu, ou bien se soumettre à Jésus et mettre sa confiance dans sa mort et dans sa résurrection. Et vous avez notamment plus de détails, si vous voulez creuser un peu plus ce message que j'ai brièvement tracé sur le site, vous avez le lien sous les yeux. C'est une manière de présenter l'Évangile en intégrant le thème du royaume de Dieu. Le fait que Jésus parle à ses disciples du royaume de Dieu tout au long de la période des 40 jours nous rappelle que nous devons être familiarisés avec ce thème, bien le connaître pour bien l'expliquer à notre tour. Et le message du royaume de Dieu est un message encore pertinent pour aujourd'hui, comme vous le voyez dans cette méthode que je viens de présenter. Encore pertinent pour aujourd'hui. Soit nous sommes dans ce royaume, dans le royaume de Dieu, soit nous ne le sommes pas. Et cela dépend du choix que nous faisons dans cette vie-ci. Le royaume de Dieu est donc un des éléments qui fait partie du plan de Dieu. Et j'aimerais aborder avec vous le deuxième élément, ce qui concerne le Saint-Esprit. À partir du verset 4, Luc se focalise sur un entretien en particulier entre Jésus et les apôtres. Je relis avec vous les versets 4 et 5. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Durant le ministère de Jésus, les disciples ont déjà entendu parler du Saint-Esprit à plusieurs reprises. Et nous pouvons penser à l'enseignement de Jésus avant de mourir sur la croix, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 à 16. Mais nous voyons que Luc précise qu'il s'agit pour les apôtres de rester à Jérusalem pour attendre littéralement la promesse du Père. Et cela fait sans doute référence aux promesses divines qui figurent dans l'Ancien Testament, encore une fois, notamment chez les prophètes. Et nous pouvons mentionner deux versets de l'Ancien Testament. D'abord dans Ésaïe, chapitre 32, verset 15. Juste avant, il est question du jugement de Dieu contre son peuple. Et puis nous lisons, « Jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé d'en haut, sur nous, alors le désert se transformera en verger, et le verger sera assimilé à une forêt. » Et puis dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 27, « C'est mon Esprit, donc c'est Dieu qui parle, c'est mon Esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Nous voyons que dès l'Ancien Testament, Dieu avait prévu d'envoyer son Esprit pour transformer son peuple, pour en faire un peuple obéissant, un peuple qui vit sous son autorité, sous son règne. Et Jean-Baptiste aussi, dont il est question dans notre texte, au verset 5, avait annoncer le baptême du Saint-Esprit. Et je relis simplement Luc chapitre 3, verset 16. « Moi, je vous baptise d'eau, donc c'est Jean-Baptiste qui parle, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc, au verset 5, Jésus parle du baptême du Saint-Esprit comme d'un événement précis de ce qui va se produire quelques jours plus tard. Le baptême du Saint-Esprit décrit de manière imagée le fait que le Saint-Esprit vienne sur toute personne qui croit en Jésus-Christ et qui, comme un bain, les purifie. Et au jour de la Pentecôte, les apôtres ont effectivement reçu le Saint-Esprit en vue de leur ministère. Et après eux, toutes les personnes qui placent leur confiance en Jésus ont pu recevoir, jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit, tel un baptême. Signe que ces personnes-là sont vraiment soumises au règne de Dieu et que désormais, elles renoncent à être roi ou reine de leur vie. Mais vous notez quand même une différence entre les apôtres et tous ceux qui recevront l'Esprit après eux. Les apôtres reçoivent ce don pour une autre raison que le reste des croyants. Ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'ils ont cru dans le message de l'Évangile. Ça, ils l'ont bien fait bien avant. Ils ont déjà cru en Jésus. Par contre, les croyants, eux, reçoivent le Saint-Esprit parce qu'ils placent leur confiance en Jésus. Donc, il y a déjà ici une différence. Non, les apôtres reçoivent le Saint-Esprit en vue de leur ministère apostolique, en tant qu'apôtre, en tant que témoin du ressuscité. Et d'ailleurs, certains spécialistes perçoivent un parallèle entre Jésus et les apôtres. Au moment du baptême de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur lui en vue de son ministère. De même, les apôtres commenceront leur mission au chapitre 2 dès que le Saint-Esprit sera descendu sur eux. Dans sa sagesse, Dieu en a voulu ainsi. Et à partir de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu accompagne les apôtres dans leur prédication, dans l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous le verrons dans Actes chapitre 2, environ 3000 personnes croiront, se feront baptiser et recevront le Saint-Esprit. Telle est la puissance qui accompagnera les apôtres et dont Jésus parle au verset 8 de notre passage. Cette puissance se manifestera notamment par des signes miraculeux, comme des guérisons par exemple. Et puis cette puissance se manifestera aussi par l'assurance que les apôtres auront dans leur proclamation de l'Évangile. Si nous restons dans le contexte de cet entretien entre Jésus et les apôtres, nous comprenons que le baptême du Saint-Esprit est indispensable pour la mission des apôtres. C'est une nouvelle phase de l'histoire qui s'ouvre et qui s'accomplit le jour de la Pentecôte. Et en ce qui nous concerne, nous nous situons longtemps après la Pentecôte et assurément, nous pouvons voir que Jésus a fidèlement accompli ce qu'il a annoncé. Et ce qui était déjà d'ailleurs annoncé dans l'Ancien Testament. Depuis la Pentecôte, toute personne qui accepte l'enseignement des apôtres à propos de Jésus reçoit le Saint-Esprit. C'est ce même esprit qui nous convainc que tout cela est vrai. C'est ce même esprit qui nous convainc que Jésus est vraiment mort pour nos péchés, qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vraiment monté au ciel, qu'il siège vraiment à la droite de Dieu le Père et qu'il reviendra pour nous juger. C'est ce même esprit qui nous accompagne aujourd'hui dans notre mission pour que l'Évangile atteigne toujours plus de personnes. Nous sommes dans cette ère, dans cette période de l'histoire où l'Esprit de Jésus-Christ œuvre depuis 2000 ans à travers la proclamation de l'Évangile. Nous sommes dans cette phase, et c'est là où ça doit aussi nous émerveiller, nous sommes dans cette phase de l'expansion du royaume de Dieu. Et c'est ainsi que s'étend le règne de Dieu qui répand son esprit sur celles et ceux qui le reconnaissent roi. Et vous voyez s'établir un lien entre royaume et le don de l'esprit. Recevoir le Saint-Esprit est la marque de notre appartenance à Dieu et donc de notre intégration au royaume de Dieu. Nous voyons un peu plus comment Jésus a tout mis en œuvre pour préparer ses disciples afin qu'ils prennent la relève dans la mission qu'il a déjà commencée. Le plan de Dieu est caractérisé par la proclamation du royaume de Dieu. Et puis également, ce plan est caractérisé par la présence et l'action puissante du Saint-Esprit qui a agi chez les apôtres comme en nous qui croyons. Mais il faut quand même parler plus précisément de ce qui concerne les témoins de Jésus-Christ. Nous avons déjà souligné le lien entre le Saint-Esprit et la mission des apôtres. Et donc, restons sur ce verset 8 que je relis encore une fois. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce verset 8 qui est souvent utilisé pour parler de la mission. Dans son contexte, cette parole de Jésus ne s'adresse pas à nous. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Jésus parle à ses apôtres, ceux qu'il a choisis parmi le peuple d'Israël pour être ses témoins. Donc, ne nous approprions pas trop vite le rôle de témoin à partir de ce verset. Il s'agit d'abord de parler du rôle des apôtres en tant que témoins oculaires de Jésus-Christ. Et contrairement à nous, eux ont vécu, marché et même mangé avec Jésus. Contrairement à nous, eux, ils ont entendu enseigner Jésus à voix haute. Ils l'ont vu même être arrêté. L'apôtre Jean, au moins, est aussi celui qu'il a vu agonisant sur la croix. Et tous les apôtres l'ont vu ressusciter. Ils sont des témoins à part entière. Et notamment lorsque nous lisons la fin du chapitre 1 concernant le remplaçant de Judas, eh bien, il est précisé qu'il faut que ça soit un témoin du ministère de Jésus. Et puisqu'ils sont des témoins à part entière, leur témoignage est d'autant plus important pour nous. Il ne concerne pas tant ce qu'ils ont vécu que ce que Jésus a fait et ce que Jésus a enseigné. C'est pour ça que Jésus précise, « Vous serez mes témoins, ils parleront de Jésus. » Il y a 10 jours, avec Damaris, nous avons regardé un reportage au sujet de la foi catholique du général Charles de Gaulle. Et tour à tour, historiens et proches de la famille ont témoigné. Du côté des historiens, il était clair qu'ils racontaient des anecdotes, mais ça ne sentait pas le vécu. Par contre, du côté de la famille, une des petites filles du général a parlé de son grand-père en évoquant des souvenirs d'enfance. Un historien pourrait se tromper lorsqu'il raconte des faits, mais ceux qui ont été proches de la personne en question peuvent parler d'elle sans se tromper, avec authenticité. Et de la même manière, Jésus a choisi des témoins qui allaient parler de lui avec authenticité. Leur témoignage allait forcément faire autorité. Et combien nous devons être reconnaissants envers le Seigneur d'avoir choisi de tels témoins dans son entourage pour que l'Évangile progresse de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à nous aujourd'hui. Dans ce verset 8, nous n'avons pas à proprement parler un ordre qui nous indique les régions à parcourir pour la mission. Mais d'une manière tout à fait providentielle, Jésus annonce à ses disciples par où ils vont passer pour témoigner. Et Luc, l'auteur des Actes, ne fait que suivre ce programme tout établi pour la suite de son récit. Les commentateurs identifient ce verset à une sorte de table des matières pour le reste du livre. Et comme ces spécialistes le soulignent à juste titre, la mention de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie et des extrémités de la terre, cette mention-là ne désigne pas seulement des territoires, mais surtout des personnes, des populations différentes, des cultures différentes. Et c'est à toutes ces populations d'origine différente, juifs et non-juifs, que le Seigneur a voulu se révéler. Alors, une question reste en suspens. Si ce verset qui parle de témoins ne nous concerne pas en premier lieu, peut-on encore parler de mission aujourd'hui ? Et dans quelle mesure sommes-nous aussi des témoins de Jésus-Christ ? Pour répondre à cette question, je m'inspire notamment des travaux de Sylvain Romerowski sur ces questions-là. D'abord, n'oublions pas que dans notre texte, nous sommes avant la Pentecôte et que cet événement annoncé doit arriver. Sans cet événement, sans le don de l'Esprit, nous n'avons pas de mission et nous n'avons pas d'Église. Or, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu descend sur les apôtres, la mission commence. Pierre prend la parole et rend témoignage de Jésus-Christ, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Et en réponse à ce message, nous avons dit que près de 3000 personnes se convertissent. Et c'est là le début de l'Église. Et nous en parlerons un peu plus à la fin du mois. Dès que le Saint-Esprit est descendu sur ces nouveaux convertis, ces 3000 personnes, ils ont reçu aussi la capacité de témoigner sur la base du témoignage des apôtres. D'ailleurs, nous lisons dans Actes 2, verset 42, il est dit de ces chrétiens qu'ils persévéraient, entre autres, dans l'enseignement des apôtres. Un enseignement qu'ils devaient continuer à méditer, à intégrer, pour être en mesure de le transmettre également à d'autres. C'est pour ça qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, les premiers témoins. Et nous voyons un peu plus loin, dans Actes 8, qu'à cause de la persécution, les croyants ont dû se disperser, à travers la Judée et la Samarie. Et nous lisons notamment au verset 4 de ce chapitre 8, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. » Et tout cela se passe après la Pentecôte. Et depuis 2000 ans, les chrétiens s'appuient pour leur mission sur le témoignage des apôtres, sur leur enseignement que nous avons maintenant dans le Nouveau Testament. Notre témoignage à propos de Jésus est très important, mais il dépend du témoignage premier des apôtres. Est-ce que finalement nous comptons plus sur notre témoignage de vie, sur notre témoignage de conversion, que sur le témoignage de ces hommes qui ont vécu avec Jésus? Dans sa souveraineté, le Saint-Esprit peut autant utiliser l'un et l'autre, notre témoignage de conversion et puis le Nouveau Testament. Mais en ce qui concerne justement ce témoignage des apôtres qui est consigné dans le Nouveau Testament, nous pouvons être sûrs que le Saint-Esprit l'utilisera pour attirer à lui des hommes et des femmes. Dans son plan parfait, Jésus fait de ses apôtres ses témoins. Et depuis, ce témoignage continue de circuler dans le monde. Dans ces premiers versets du livre des Actes, Luc revient sur la période des 40 jours qui précède l'ascension. Cet événement, d'ailleurs, l'ascension, a aussi une grande importance et nous en parlerons dans 2 semaines. Par ce récit, le Seigneur nous montre de quelle manière il a planifié l'extension de son royaume sur la terre. Nous avons vu que, en ce qui concerne le royaume de Dieu, comme les apôtres, nous avons besoin d'avoir nous-mêmes une vision claire à ce sujet. En ce qui concerne le Saint-Esprit, le Seigneur nous a introduits dans une nouvelle ère depuis la Pentecôte. Et depuis ce jour, tous les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit et font partie du royaume qui continue de s'étendre. Et en ce qui concerne les témoins de Jésus-Christ, soyons reconnaissants que le Seigneur ait choisi ses apôtres pour répandre l'Évangile. Parce que c'est de leur témoignage que nous dépendons pour témoigner à notre tour. Et tous ces éléments doivent nous encourager aujourd'hui à poursuivre la mission d'annoncer l'Évangile pour que le règne de Dieu s'étende dans plus de vies. Tous ces éléments doivent nous rassurer que quoi qu'il arrive, le plan de Dieu s'accomplira. Quoi qu'il arrive, le royaume de Dieu continuera son expansion. Alors, avec confiance, cette semaine encore, poursuivons la mission. Dieu est bon et plein de grâce envers cette humanité qui est pourtant coupable et rebelle. Alors saisissons toutes les occasions avec l'appui, le soutien du Saint-Esprit pour annoncer que Dieu règne et que son royaume est encore ouvert pour quiconque remet sa vie entre les mains du roi des rois. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te louons pour ta parole et nous reconnaissons ton plan parfait, celui que tu as établi pour l'extension de ton royaume. Et effectivement, ton royaume ne cesse de grandir encore et encore, non seulement à travers le temps, mais aussi à travers l'espace. Et nous sommes les heureux témoins de cette expansion. Accorde-nous la grâce de pouvoir aussi participer à cette œuvre, en nous appuyant en particulier sur le témoignage qu'ont laissé les apôtres. Et merci de les avoir choisis en premier pour pouvoir répandre la bonne nouvelle. Inspire-nous, Seigneur, pour que nous puissions effectivement saisir toutes les occasions durant cette semaine de pouvoir continuer à parler de toi, de continuer à parler de Jésus et de ce qu'il a fait. Oui, Seigneur, accorde-nous de pouvoir nous associer à toi pour que ton royaume, qui reste encore ouvert pour tous ceux qui pourraient reconnaître ton autorité, pour que ce royaume-là puisse être connu au plus grand nombre. Oui, Seigneur, apprends-nous encore à saisir ces occasions pour la seule gloire de ton nom. Amen.